Oui, j'ai déjà eu l'occasion de faire un débat de ce type-là dans un autre cinéma, et généralement, c'est vrai que le public est un peu perplexe, déjà parce qu'on n'a pas beaucoup de coordonnées sur le moment où ça se situe. La scientologie en elle-même, c'est une trame de fond qui est assez discrète, c'est des bas de propos d'Anderson, et ensuite on se demande généralement ce qu'il a voulu nous dire. J'aurais une question à poser à Marie-Jean Sauré, mais je laisse reprendre un peu cet esprit. Et donc, juste deux mots sur le contexte du film. Alors, on avait prévu de faire ce débat depuis le mois de décembre, et il se trouve qu'à l'époque, quand on en a discuté, l'Utopia a contacté le distributeur du film, qui a dit non, attention, Anderson ne veut surtout pas qu'on fasse de lien direct entre son film et la scientologie. Or, ça me semble un petit peu étrange, parce que dans le film, de toute évidence, Anderson connaît très bien la scientologie, connaît la doctrine, l'histoire, bon, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais en gros, il y a beaucoup d'éléments qui font que on ne peut pas du tout douter qu'il s'agit bien de la scientologie. Après, la période pendant laquelle se déroule le film, c'est de la naissance de la scientologie, donc de ce qui était un petit peu l'ancêtre de la scientologie, qui est la Dianétique, en mai 1950. Donc ça court de 1950 à peu près, je pense, à 1965. C'est les tout premiers temps de la naissance de l'église de scientologie. J'en discutais tout à l'heure avec Rodolphe. Il se trouve que quand on regarde ce film, ça ne ressemble pas du tout, ce qu'on y voit, ne ressemble pas du tout à l'image qu'on se fait, en gros, de la scientologie avec John Travolta, avec Tom Cruise et toutes ces grandes stars. C'est que la scientologie est devenue la scientologie quasiment dans leur champ. C'est-à-dire juste après la dernière scène de ce film, quand ils quittent Seymour Hoffman. Oh, Seymour Hoffman était donc en Angleterre à ce moment-là, et c'est après cette période-là que la scientologie va vraiment se développer. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter pendant les débats. Et du coup, moi, j'avais quand même une question à poser à Marie-Jean Sauré. Quelle est votre interprétation de ce film? Qu'est-ce qu'il me dit?
Non, non, mais c'est bizarre comme débat. D'abord, vous savez sans doute pas qui on est, pourquoi on est là. Bon, Thierry Labotte, c'est un spécialiste de la scientologie. Et à dire vrai, quand il dit que... Et en fait, on travaille dans la même équipe de recherche, j'ai des collègues qui sont là, et on travaille sur des questions qui portent sur, disons, l'articulation du sujet du lien social, sur la nature du lien social contemporain, et là-dedans, sur, on pourrait dire, par exemple, le phénomène sectaire tel qu'il se présente aujourd'hui, ou le fatras de croyances qui inonde ce monde qui se veut absolument rationnel, et jamais il y a tant de croyances obscures auxquelles les uns et les autres croient. Je veux dire, on pense souvent que la science est antinomique avec la croyance, c'est quasiment le contraire. Plus la science avance, plus il y a une sorte d'appel on peut dire, à des croyances qui viennent boucher les trous, en quelque sorte, de cette frontière que la science révèle. Et quand il dit que la raison pour laquelle je sais plus comment il s'appelle, moi je prends ça parce que j'ai un Alzheimer, donc je regarde
c'est mon problème.
Anderson, pourquoi il veut pas qu'on fasse le lien avec l'Église de la Scientologie, mais quand Thierry Lamotte a soutenu sa thèse, il a déjà été inquiété par l'Église de la Scientologie. Et quand le bouquin est sorti, puisqu'il est sorti dans une collection que j'ai l'honneur de co-diriger, disons, avec Pierre Bruno, nous avons reçu une menace de procès, mais on avait pris des gants, et l'enquête était suffisamment bien faite pour qu'on ne soit pas inquiété plus que ça. Mais c'est des gens quand même très soucieux, dont nous continuerons à faire très attention, à ne pas faire de lien entre ça et la symptologie.
Non, 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 mais on n'en a pas parlé ce soir.
Après, moi, j'ai pas de, je sais pas, non, moi, je serais plutôt, je crois qu'il faut plutôt se laisser aller à discuter. Il y a, on voit, c'est une vraie question de savoir comment ces mouvements, peuvent naître. Alors, on peut se poser la question du point de vue du maître, en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'il invente ça? Bon, là, c'est peut-être assez facile à répondre, qu'il construit un truc dans lequel il peut vivre. Mais comment se fait-il que des tas de gens se laissent capturer, un peu comme si dans chacun de nous, il y a quelque chose qui ne demande qu'à se plier, qu'à s'aliéner, à se mettre là. Non, moi, je suis plutôt sensible au fait que, finalement, jusqu'au bout, il y a quelque chose qui empêche l'adepte d'être pris, et ce qui lui empêche d'être pris, c'est la rencontre avec cette fille Alors, j'avais pas fait attention aux paroles de la dernière chanson, mais je changerai de partenaire jusqu'à ce que je te retrouve. Et ça, par contre, cette question de l'amour et l'objection à la secte, c'est peut-être la chose la plus précieuse.
Juste deux mots pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Quand on lit le témoignage d'ex-adeptes, en l'occurrence de la scientologie ou d'autres sectes, hein, le moment où ça se met à coincer, où ça grippe complètement l'engagement, c'est effectivement la rencontre amoureuse. Et lui, c'est une rencontre ratée. Alors, ce qui est ambigu avec ce film-là, c'est qu'on...
Si vous en connaissez d'autres.
Pardon? Ah, oui, c'est vrai, non. C'est une rencontre ratée comme tous les autres. Mais ce qui reste ambigu dans la façon dans ce que nous dit Anderson, c'est que ce garçon, il rencontre ce maître, il est même très cabossé par la vie, et au bout du compte, il en sort, il est un peu mieux, il est pas plus mal. Au moment où il se libère de ce maître-là, en tout cas, il peut rencontrer la femme, une femme. J'ai eu des retours, moi, pendant la dernière projection, où les gens se demandaient quelle était la complaisance. On connaît un petit peu les liens de la scientologie avec Hollywood, mais on ne savait pas si... Non, je pense qu'il nous raconte la rencontre entre un homme cabossé et, au bout du compte, une figure paternelle. Mais à la fin, comment est-ce qu'il la rencontre, cette femme? Il rencontre à partir d'un trait d'identification avec le maître, malgré tout. Mais ça lui permet de rencontrer cette femme.
Bon. Oui, je... Là, je sais pas.
De voir quand on vient de voir,
c'est pas. Je trouve que les paroles de la chanson, parce que bon, il rencontre quoi une fille avec qui il passe un bon moment, mais je suis plus sensible aux paroles de la chanson.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Je crois qu'elle dit, non? C'est ma voisine qui est ma femme qui me dit ça, qui m'a fait remarquer les paroles. C'est ça, c'est je changerai de partenaire jusqu'à ce que je te retrouve. C'est-à-dire, non, donc il n'est pas dit que ça soit il y a quelque chose qu'il cherche, il y a quelque chose qu'il... Mais c'est clair qu'un mouvement religieux va chercher chez son adepte ce qui ne demande qu'à croire. Donc, quand il lui dit « mais on s'est rencontrés », etc., d'ailleurs c'était beaucoup plus intéressant quand il lui disait « mais on s'est rencontrés », que quand on sait où c'était pendant la guerre de 14-18, quand ils envoyaient les pigeons voyageurs par-dessus les lignes. Bon. Ça, là, on se dit, il est dans son délire. Mais tant qu'il dit, mais on s'est rencontrés, tant qu'il fait une espèce de promesse de sens, une promesse d'être, il y a dans chacun d'entre nous quelque chose qui demande de aller chercher ça, à attendre ça. Donc ça, c'est... Je veux dire, ça, c'est... Bon, enfin, dans votre travail, mais dans le travail de tous ceux qui ont travaillé sur ces questions, moi j'en sais rien. Par exemple, des étudiants qui ont travaillé avec moi sur des comment on appelle ça, des rituels de transe, par exemple, le vaudou, le kemboa, je sais pas quoi, la santeria. Et il y a des gens qui vont en touriste assister à ça, en disant mais moi j'y crois pas. Et puis qui rentrent en transe pendant la cérémonie et qui sortent complètement convertis. Mais ça prouve rien du tout, je veux dire, ça ne demande qu'à... Rien ne protège de ce qui en soi ne demande qu'à être pris dans l'hystérie de cette affaire, etc. Sauf que là, il y a une résistance jusqu'au bout. C'est plutôt ça que je trouve sympathique dans ce film. Voilà. Bon. Non, mais il faut peut-être...
Est-ce que vous avez une question?
Oui, quand tu dis, Thierry, qu'en fait, il est cabossé au début, mais moi, je trouve qu'à la fin, il paye quand même le prix de son corps, d'une certaine manière, parce qu'il est quand même complètement sous l'emprise de la maladie, ou je sais pas, ou d'autres choses, quoi. Et donc, du coup, il y a quand même quelque chose aussi qui vient de clocher, quand même.
C'est vrai qu'il ne va pas plus mal à la fin qu'au début, quoi. Et d'un autre côté, alors non seulement il y a cette femme qui l'a croisée, et qui, dans le souvenir, l'a complètement pendant tout le film, qui certainement lui permet de résister. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'alcool qui traverse le film avec lui. Ça c'est l'élément qui ne quitte aucun moment.
Peut-être aussi, le point d'émancipation, c'est dans cette espèce de lac sec, là, où il dit « choisis un point et va tout droit et le plus loin possible ». Là, il lui obéit. Mais c'est le moment où il faut quand même.
Oui, c'est vrai qu'il lui échappe en lui obéissant.
Ah oui, il fixe-toi un point. Et il est allé voir sa copine, ouais.
Bonsoir. Je pense que c'est un passage assez important dans le film, parce que c'est la question de l'engagement, c'est ce que vous disiez aussi. Et l'engagement, c'est ce qui peut nous engager d'un côté ou de l'autre. C'est ce qui peut aller le faire du côté de sa liberté, et il va plus loin que ce que le maître lui demande. Il va à l'horizon, quoi. Il y va. Et du coup, ça coupe, et après, on le retrouve aux prises avec son passé, et en train de renouer une histoire personnelle. Donc, voilà, je pense que je voulais souligner ce petit passage-là, qui permet un peu de retourner dans le réel, de quitter la fascination, les maisons enfermées, les bourgeois, la richesse, et voilà.
Je suis pas sûr à 100% qu'il soit engagé dans... À aucun moment il s'engage réellement dans cette secte. C'est vraiment le rapport avec le maître, il y a un rapport de fascination, où l'un et l'autre, il y a un rapport ambigu du début à la fin, mais engagé réellement dans ce mouvement, il...
C'est un fait de sa volonté, quand même.
À la dette.
Il n'est pas engagé dans un mouvement, mais il est engagé en tant qu'individu.
Alors juste deux mots de plus sur ce que Marie-Jean Sauré disait tout à l'heure de cette secte. Donc effectivement, la science avance, elle étend le champ du savoir et des découvertes. Mais donc dans le même temps, quelque chose résiste du côté des sectes et des croyances, mais les croyances elles-mêmes mutent en l'occurrence. Et la scientologie, le mouvement raélien, tous ces mouvements-là nous montrent que même le monde des sectes et le monde des croyances peut se développer autrement. C'est-à-dire que là où autrefois ça fonctionnait à la croyance et au doute, au bout du compte, la scientologie, c'est le type de croyance contemporaine qui s'assoit sur la certitude, sur une démonstration d'allure scientifique. Voilà, parce que la scientologie revendique ses liens à la science. Contrairement aux sectes du passé, cette secte-ci met en avant avant tout l'hypothèse et la logique, la démarche, la méthodologie même scientifique. Donc là, on a fait autre chose. C'est-à-dire, ça ne laisse quasiment plus de choix. On n'a pas à discuter avec un scientologue. Le scientologue va nous dire que tout ça, ce sont des démonstrations. C'est expérimental, ça a été démontré par la science scientologue.
Bonsoir, je voulais savoir, la scientologie, elle se revendique, elle... Bonsoir. La scientologie, elle se revendique comme une... Vous dites comme une science, mais pas du tout comme une religion.
Si.
Parce que je crois que c'est ça le problème, c'est que eux, ils voudraient être connus comme une religion et que nous, on place les limites entre la religion et le sectarisme.
Ben, on a du mal à le faire, en fait, au bout du compte, parce qu'il n'y a pas de définition juridique de la secte, de la religion. Et au bout du compte, quand on dit qu'elle revendique le statut de la religion, c'est juste le statut fiscal qu'elle a obtenu aux États-Unis, qu'elle a obtenu, je crois, aussi en Espagne. Mais c'est un statut fiscal particulier. Mais disons qu'un État n'a pas à reconnaître une religion. Dans une société laïque, on n'a pas à dire ça c'est une religion, ça s'en est pas. Du coup, c'est une philosophie, c'est une association qui est culturelle et qui visera à devenir culturelle pour bénéficier de certains avantages fiscaux. Cela dit, dans le développement même ce que j'ai démontré dans ma thèse et dans le livre qui est paru au PUM, c'est que la scientologie est une construction délirante que Ron Hubbard a commencé à construire au moment où sa psychose s'est déclenchée. Donc lui, dans la logique même de son délire, à un moment, il est devenu nécessaire de revendiquer le statut de religion. Mais c'est pas pour les avantages fiscaux sont des bénéfices secondaires, on va dire, de son délire, mais dans le système délirant lui-même, à partir du moment où, dans le délire, s'est profilé la nécessité des vies antérieures et de la réincarnation, il a, dans la logique même de son délire, revendiqué le statut de religion. Mais au départ, le mouvement scientologue se présentait comme un mouvement psychothérapeutique. Et c'est ce qu'on voit là, à un moment, quand on voit l'adepte qui va et vient, qui touche le mur au bout du compte. Ça, ce sont des méthodes psychothérapeutiques un peu violentes, un peu brutales. Mais quand on les compare à ce qui se faisait à l'époque, c'est pas plus brutal que certaines thérapeutiques à l'électrochoc, etc. Donc,
mais peut-être qu'il faut situer ça sur le, comment on pourrait dire, sur le fond de ce qu'est la modernité. C'est-à-dire que depuis le XVIIe siècle, au fond, depuis l'invention de la science moderne, peut-être à ce moment-là, c'est à ce moment-là que de façon claire est apparue d'un côté, entre guillemets, une rationalité qui est capable de démontrer, d'expliquer, de décrire, qui est la science moderne, et elle le fait de façon paranoïaque, de façon absolument certaine, bien que, pourtant, chaque avancée de la science démontre que ce qu'on croyait hier, c'était pas ça. Ça n'empêche pas qu'on ait une espèce d'adhésion à la démonstration qui ne souffre aucune critique sur le moment, je veux dire. C'est... Bon, je ne sais pas si ce serait un bon exemple, mais moi, ça m'amuse de dire, voilà, que quand à l'école, on vous dit combien ça fait 2 et 2, à supposer que les mathématiques, ça soit, puisque notre physique, elle est mathématique aujourd'hui, 2 et 2, ben, dans le système décimal, dans les opérations où elles sont divisées, 2 et 2, vous demandez à l'élève combien ça fait 4. S'il dit 5, on ne dit pas, ah, bravo, t'es pas tombé loin. C'est faux. Voilà. Seulement, ça a divisé d'un autre type de questions à ce moment-là, qui sont les questions qui portent sur la question du sens, quel est le sens de ma, qu'est-ce qu'on fout là ce soir à discuter, quel sens ça a, pourquoi y a-t-il un monde plutôt que rien, comme disait Leibniz. Ça, c'est un autre type de question. C'est la question qui est restée entre les mains des ontologies. La différence qu'il y a, c'est que les ontologies sont incapables de produire une réponse qui puisse rivaliser avec la science. Eh bien, le problème, c'est que il faudrait montrer qu'à ce moment-là est né le capitalisme dont on a vu toutes les premières images, quand même, sont faites pour nous montrer ce bonhomme implanté dans des conditions de vie absolument délétères, qui sont celles je sais pas, puisque ça remonte à 50, il dit là.
Oui, c'est
bon, c'est une époque quand même assez harde, l'après-guerre, pour ceux qui avaient ces conditions-là de vie. Donc, il faut lier ça à ce qu'est le capitalisme. Et le capitalisme a sécrété quand même cette espèce d'idéologie du progrès et des lumières selon laquelle, ben, demain, tout est formidable. Et les religions elles-mêmes ont pris un pli qui est de rivaliser avec la science. Et donc, on voit apparaître des mouvements religieux. Alors, l'Église de la Scientologie, mais pas seulement, la science chrétienne, la scientologie, le design intelligent, les transhumants, et peut-être même tous les intégrismes actuels, qui sont pas des retours aux religions du passé, mais la tentative de produire, concernant les questions existentielles qu'on peut se poser, des réponses qui, pour ceux qui se laissent convaincre, pour les adeptes, auraient la même caractéristique de certitude que la science. Donc on est là dans quelque chose de très problématique, qui est ce qu'on appelle le scientisme, par lequel on est tous plus ou moins contaminés, c'est un peu le problème.
Ce qui est intéressant avec le...
Je vais rajouter quelque chose, je sais pas.
Oui, parce que la science, enfin, il ne semble pas que la science propose des réponses, des certitudes. En cela, par rapport à la religion, c'est une question de foi, quoi. C'est une question de foi, où on a foi en 1 plus 1 égale 2, ou on a foi en...
Vous voyez ça comme ça, dans le champ de la science?
Non, je pense qu'effectivement, la science, c'est un processus, il y a ce qu'on appelle des preuves, c'est dans un cadre, c'est défini.
Ouais.
Mais personne, la scientologie, là, imaginons qu'elle amène un bien-être à des gens. En quoi elle serait dangereuse? Quelle est la part de la manipulation quand on est un maître, quand on est un professeur de sciences, ou quand on est... Parce que ça revient toujours à la même chose, ça revient toujours à avoir confiance en la parole de quelqu'un, même si on repense les choses, même si on joue les
questions.
Elle est où la limite?
Le principe de la science, c'est justement de se passer du moment de l'énonciation, c'est pas l'autorité. De l'énonciateur, du scientifique qui valide les énoncés de la science, E égale MC2, ça fonctionne avec ou sans Einstein. Voilà, donc c'est ça le principe. Et ce qui est nouveau avec la scientologie, c'est que justement, René Hubbard, d'emblée, a promu des énoncés qu'il disait scientifiques, donc c'était pas vrai, parce que s'il le disait, c'était vrai parce que c'était démontré expérimentalement. Donc il s'est moulé, lui, dès la naissance de la Dianétique, dès la naissance de la scientologie, il s'est moulé sur la méthodologie et la logique même du type de discours de la science, pour dire, voilà, ce que je dis... c'est pas moi qui parle, moi René Hubbard, ce que je dis c'est vrai parce que c'est démontré par l'expérimentation. Et du coup, lui, c'est moulé. Encore une fois, E égale MC2, l'énoncé même scientifique d'Einstein n'est pas vrai parce que c'est Einstein qui l'a produit. Il est vrai parce qu'effectivement ça permet de faire décoller des fusées, etc. Donc il y a une validité parce que ça tape un bout du réel. Mais lui, René Hubbard, quand il a fondé la scientologie, la dianétique au départ, Il a fait en sorte de se retirer de lui en tant que sujet énonciateur. Il a mis en avant que les énoncés de sa science. Donc c'est en ça qu'elle est plus insidieuse. C'est pas la science à la limite. Effectivement, ça ne discute pas. Il n'y a pas de dialectique. Il n'y a pas de débat. C'est vrai ou c'est faux. C'est ce que Marie-Jean Soré disait tout à l'heure. Si on dit 2 plus 2 égale 5, c'est pas presque vrai. C'est faux. Voilà, c'est tout simplement faux. Ben lui, Ron Hubbard, quand on l'interpellait, on le voit un petit peu dans le film. Quand on l'interpelle sur certaines approximations de son œuvre, il ne pouvait que s'énerver parce que c'était pas lui qui parlait, c'était la science, les scientifiques. Et c'est en ça que cette secte est nouvelle, justement, parce qu'elle promeut une nouvelle modalité de croyance fondée sur la certitude mathématique offerte par les sciences.
Bonsoir. Je pense que là où il y a une petite ambiguïté aussi, c'est que dans ce que vous appelez la science, on trouve ce qu'on cherche, et on cherche des choses parce qu'on en a besoin aussi. Voilà. Et... Non, la deuxième chose, c'est que c'est pas faire beaucoup de crédit pour ce qu'on a vu au niveau de la secte, parce que c'est les seuls qui l'accueillent, en fait, qui l'acceptent. Donc qu'il aille mieux, moins bien ou pas, il était toujours seul depuis la fin de la guerre.
Juste à propos de ce que vous disiez sur la science, on en fait ce qu'on veut. Alors, c'est une anecdote, hein, mais il y a 2-3 mois, j'assistais à une conférence de... comment s'appelle cette grosse secte qui est installée à Toulouse aussi En fait, c'est une branche de la nouvelle Acropole qui s'est installée sur la côte basque. Donc, j'étais allé assister... Alors, l'intitulé, c'était Cerveau et physique quantique. Ça, j'aime bien. Hein, le cerveau et la physique quantique, ça, c'est la... tout et n'importe quoi. Donc le conférencier, à un moment, il me dit, bon, vous savez, E égale MC2, qu'est-ce que ça veut dire avec MC2? E égale MC2, ça veut dire que l'énergie, c'est la lumière. Le corps, c'est de l'énergie. Nous sommes des êtres de lumière. À partir de E égale MC2, il y avait 300 personnes dans la salle, et tout le monde était... il y a eu une sorte de mouvement général. Parce que tout le monde était fasciné par l'idée qu'à partir de E égale MC2, il venait de démontrer que tous ceux qui étaient dans la salle étaient des êtres de lumière. Donc effectivement, c'est ouvert à toutes ces interprétations.
Enfin, il ne faut pas non plus qu'on ait une vision caricaturale de la science. La science, bon, c'est pas la technoscience. La science, c'est la science fondamentale, c'est d'essayer de résoudre des problèmes selon des paradigmes dans un certain consensus d'une communauté scientifique. Si on admet ce paradigme et ce cadre, on peut, à l'intérieur de ce cadre, produire une démonstration réfutable. Mais à dire qui produira un résultat, qui produit un résultat qui est réfutable, qui doit être réfutable pour être dit scientifique, c'est-à-dire on doit pouvoir le répéter, etc. Et en général, on est un peu fasciné par l'opération de démonstration, par la création que ça représente. Mais à dire vrai, la science, quand elle a résolu un problème, elle a en général tout simplement déplacé les limites du savoir. Et pour gagner sur le réel qu'elle découvre en même temps qu'elle résout un problème, il va falloir produire un nouveau savoir qui, vraisemblablement, dira le vrai et le faux de ce que nous croyons aujourd'hui. Donc la science elle-même n'a pas la stabilité que l'idéologie de la scientiste, de gens qui sont prêts à croire que c'est scientifique, parce que c'est exactement ce qu'on vous bassine tous les jours avec la science, avec l'économie, qu'on vous présente comme un discours qui est le réel, qui est indiscutable. On peut pas critiquer l'économie, le monde va où il est, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de critiquer le capitalisme? On peut pas changer, c'est du réel. Qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est une création qui est inventée à un certain moment donné. Peut-être le pire là-dedans, pour dire que quand même, c'est possible pour essayer de distinguer ce qu'on appelle le scientisme, cette idéologie sur laquelle la science peut pas se tromper, qui dit le vrai sur le vrai. Et de l'autre côté, il y a une autre question qui est la question du sens que notre époque voudrait traiter scientifiquement. Mais je trouve, par exemple, pour prendre un exemple qui est un peu effrayant d'un certain point de vue, c'est lorsqu'on nous a dit il y a assez peu de temps que l'équation du calcul de l'austérité imposée par qu'utilise le FMI, en réalité qu'il utilise depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, pour calculer le niveau d'austérité que les pays doivent s'imposer pour pouvoir venir à bout de leurs dettes. Mais on s'est aperçu que cette équation, que cette formule est fausse, parce que le coefficient de complexité aggrave, lorsque vous mettez un niveau au départ d'austérité, et le coefficient actuel multiplie l'austérité. Donc on a demandé aux Grecs, aux Espagnols, aux Italiens, beaucoup plus d'efforts que ce que la formule disait. Et quand on a annoncé cette erreur, tout le monde a applaudi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? De nous faire croire que une équation juste devrait autoriser à ne pas écouter les millions de Grecs qui étaient dans la rue. C'est là où vous avez la différence entre cette conviction que la science gérerait le monde, c'est un monde, je sais pas, sur la Platon peut-être, et de l'autre côté, le fait que les individus qui habitent ce monde, ceux qui font de la science aussi bien, eh bien ceux-là, leurs paroles, on ne les écoute pas. Ce sont ces deux questions différentes, la question du sujet, de ce qu'il invente pour habiter le monde, et la question de ce que permet la science. Vous voyez, c'est ces deux aspects. Le scientisme, c'est une idéologie qui prétend que on doit pouvoir traiter les deux questions de la même façon. Et je crois que l'économisme d'aujourd'hui est un scientisme qui nous a tous pris. Je veux dire, quand vous entendez dans le monde d'hier, je crois, à propos de Chavez, que c'est très bien tout ce qu'il a fait sur le plan social, mais qu'économiquement, c'est pas bon, c'est exactement comme Suo, là, pendant la campagne présidentielle, qui disait, je sais pas comment il disait, l'humain d'abord, c'est bien, mais c'est pas économique. Ben, c'est ça, je veux dire, vous voyez, quand on le dit comme ça, c'est le même problème. Or, ces sectes ont vu le problème, on peut dire qu'elles l'ont vu. Je veux dire, c'est ça, c'est le côté utopique, elles voient un vrai problème. Mais elles lui apportent une réponse qui serait d'essayer de nous formater pour entrer dans le dispositif. Bon, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Bon, donc c'est un vrai problème. Bon, mais la secte n'est qu'un aspect, il n'y a pas que la secte. J'ai forcé le trait en prenant notre rapport à l'économie actuelle pour dire qu'on est tous contaminés par ça, par cette façon de nous penser. C'est-à-dire le fort d'une époque, c'est de secréter une idéologie, presque même une anthropologie, c'est-à-dire une certaine conception de l'humain avec laquelle nous essayons de nous penser. Et nous pensons avec ce que l'autre nous suggère. Alors c'est vrai que l'amour c'est peut-être un moyen de résistance. Je pense que c'est
bon, en tout cas, c'est sur cette anthropologie-là, hein, néolibérale, que prospèrent toutes ces sectes, hein, qui viennent un petit peu donner les outils, formater un peu les gens, parce que la scientologie et toutes ces nouvelles sectes ne proposent pas une rupture avec le monde extérieur. On ne rentre pas dans cette secte pour se couper du monde, on y rentre pour se ressourcer et trouver les armes pour aller lutter dans ce monde-là. Donc elles ne sont pas du tout révolutionnaires, elles ne sont pas...
Mais vous voyez, je pense à une autre, je pense aux transhumains, dont il y a quelques temps, on pouvait en parler, des fois on en parlait entre nous, sur un mode un peu ironique même. C'est-à-dire ces gens qui pensent que, voilà, l'humain c'est une certaine étape de l'évolution, la prochaine étape c'est les machines, et on va essayer de fabriquer des machines dans lesquelles on pourrait se télédécharger pour faire, vous rendez compte, une super intelligence par connexion de nos cerveaux, on pourrait se débarrasser de nos corps, de la sexualité, on va vachement s'emmerder au passage. Et ça, c'est, on pourrait rigoler, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, le début de cette année 2013, l'Europe en pleine crise débauche 1,8 milliard pour fabriquer un cerveau artificiel qui doit permettre la connexion entre la biologie, la physique atomique, les neurosciences et la génétique. Et il y a des chercheurs qui disent ouvertement que, en effet, nous ne sommes qu'une étape de l'évolution, la prochaine étape, c'est les machines. Mais il faut bien dire qu'il n'y a que les humains pour s'en réjouir. Ou pour s'inquiéter, quoi. Ça, c'est bien. Parce que la machine, je crois qu'elle s'en branle. Justement, elle s'en branle pas. Elle s'en fout. Oui, ça s'en branle. Elle s'en fout, la machine, elle s'en fout. Je crois que, dire si elle est intelligente vraiment, elle débranchera. C'est la seule façon de faire des économies, puisqu'il n'y aura plus personne pour regarder qu'est-ce qu'elle fait.
Je suis une petite.
Je vous dis ça, mais c'est en même temps ce fantasme soutient les recherches. Donc, il y a des aspects positifs parce que ces recherches seront utiles à des tas de gens qui ont des lésions cérébrales, à des gens pour qui on est en train de fabriquer, je sais pas, qui sont paralysés ou je sais pas trop quoi. On fabrique des exosquelettes, on fabrique des machines qui peuvent leur permettre de regagner une autonomie. Donc faut pas croire que ça c'est le côté technoscience, technique, une science qui fabrique des choses dont on a besoin. Mais le fantasme derrière, oui, il est religieux, il est scientiste.
Une petite remarque par rapport au transhumanisme. Kurt Weill, qui est le théoricien du transhumanisme, a été embauché très récemment par Google. Ce qui ne prête plus tellement à sourire.
Non, il y a l'Institut de la Singularité.
C'est lui.
C'est l'Institut de la Singularité qui existe depuis un moment. Et ils appellent, enfin, ils considèrent que le Big Bang, c'est une singularité. C'est quelque chose qui s'est produit une fois, on ne sait pas très bien pourquoi, et il en est sorti de l'univers qui est le nôtre. Et eux pensent réussir à créer les conditions d'une nouvelle singularité qui permettrait l'accouchement, ben, de cette humanité machinique qui ferait que nous, après tout, si on continue d'exister, on pourra rester au cinéma, peut-être.
Kurzweil, il a fait un pas de plus, en fait. On en parlait tout à l'heure, son dernier bouquin, c'est The Singularity is Near, donc la singularité est proche. Et dans son dernier bouquin, il dépasse cette idée de la connexion homme-machine, où il faudrait télécharger le mental ou l'esprit dans la machine. Il nous dit que, à un moment, là, on arrive au moment de la singularité, où l'intelligence humaine, potentialisé par les possibilités informatiques, devrait se déployer à l'infini et irriguer l'univers. Irriguer l'univers. L'intelligence humaine va rendre l'univers intelligent. Donc on est passé dans une étape un petit peu plus délirante.
Oui, enfin bon, moi j'espère rester un peu débile. C'est le corps qui fait la débilité, on l'a bien compris. Parce qu'il faut s'en débarrasser pour entrer dans les machines intelligentes.
Bonsoir. Moi, je voulais revenir en fait sur la question de Freddy Quell, donc qui résiste au discours du maître, et justement, en lieu de résistance, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est sa pulsion et sa folie qui, dans la fuite, échappe à son emprise en fait. Donc, on a par exemple la scène où justement il est donc complètement embrigadé et commence à faire de la propagande en distribuant des tracts pour la conférence. Et jusqu'à ce qu'il croise un mec de cette bande qui lui dit que finalement le deuxième bouquin du maître est pas si convaincant et qui commence à douter et Freddy Quell le cogne en fait. Et du coup là c'est justement au moment où il est sans doute le plus converti ou le plus proche de l'être que sa pulsion en tout cas violente vient prendre le dessus. Et du coup c'est toujours plutôt par fuite en avant dans une espèce d'acceptation orale en tout cas où la pulsion se ferait un chemin et où du coup il y a une fuite et non plus une résistance en fait. Et du coup pour lier à ça peut-être aux réflexions sur le capitalisme, on pourrait s'interroger sur peut-être un parallèle à faire entre justement la question de la pulsion face à un discours vide en fait. Parce que le maître, il a Hoffman a une présence assez folle et on a envie de le croire au début parce qu'il a beaucoup de charisme etc. Jusqu'à ce qu'on se rende compte petit à petit que finalement son discours est vide. Et qui tourne comme ça complètement vite quoi. Et justement, est-ce que quel rapport on pourrait faire entre un discours vide et qui tourne en parfaite autonomie et qui arrête pas de se casser la gueule en fait et la pulsion justement qui vient résister à ça mais sans se confronter à une espèce d'ordre des discours. Voilà.
Moi, enfin, c'est une remarque très juste dans le film. Je pensais que Thierry aurait pu faire cette remarque parce que, en ce qui concerne la scientologie, Ron Hubbard a lu les études sur l'hystérie de Freud. Et c'est-à-dire ce moment, c'est le Freud qui précède l'invention un petit peu de la pulsion. Et on voit par exemple combien, très souvent, il dit à celui dont il voudrait faire son disciple, tu es un animal, tu es une bête. C'est-à-dire, tu es un être pulsionnel. Bon. Alors là, il y a une thèse, moi je ne sais pas si en 2 minutes on peut dire ça, mais il y a une thèse freudienne qui est qu'en effet, comment l'humain s'est humanisé, mais en subordonnant son animalité, on va dire, au langage. C'est-à-dire, exactement, il dit Freud, il y a une espèce de métaphore, le droit et la justice se substituent à la force animale. Mais ceci dit, on n'est pas pour autant des êtres... même si nous habitons le langage, si nous créons une civilisation en quelque sorte pour dompter l'animal que nous sommes, les pulsions exigent toujours d'être satisfaites. La sexualité veut être satisfaite, la violence veut être satisfaite. Donc, elle ne cesse pas jamais de se manifester, de ressurgir et d'exiger son quotient de satisfaction. Ça, c'est et du coup, Freud mettait une sorte de combat entre la sublimation, c'est-à-dire l'utilisation de l'agressivité et de la sexualité au service de la culture et de la civilisation. Et puis, de l'autre côté, quand même, eh bien, il faut que cette violence, elle se manifeste quelque part. Et la sexualité, quand même, si on veut faire des gosses, il y a un moment donné, il faut passer à l'acte. Bon, pour dire les choses un peu connement. Et donc c'est une espèce de rapport qui ne s'arrête jamais. Au fond, c'est ce qu'il appelle, lui, la lutte, en quelque sorte, entre les pulsions de mort, qui sont paradoxalement du côté de la civilisation. Donc quand on évoque les transhumains qui ont comme idéal d'arriver à faire une machine qui débarrasserait de l'humain, c'est le triomphe de la pulsion de mort par les moyens civilisationnels les plus élevés. Donc en effet, la pulsion est ce qui maintient l'exigence de l'humain d'être en quelque sorte représenté. Mais après, ça pose la question à chacun, qu'est-ce que tu fais de ta pulsion? C'est une mauvaise question, hein. Ça deviendra plutôt qu'est-ce que tu fais de ton désir.
Ce que vous dites est très juste.
Ah oui, je trouve très juste.
Parce que, alors là on, le film montre les débuts de la scientologie. À ce moment-là, parce que non seulement René Barre a bien lu Freud, bon, surtout les études sur l'hystérie, s'est arrêté au Freud d'avant la psychanalyse, mais malgré tout, il a réussi à attraper quelque chose chez Freud. Il a lu Freud et il a lu Édouard Bernays aussi. Il a lu le neveu de Freud qui a inventé la propagande et la technique moderne de publicité. Et Édouard Bernays lui-même avait bien compris chez son oncle Freud ce qu'on pouvait faire de la pulsion, notamment l'engager dans la mécanique de la consommation, dans le monde du marché. Donc là, ce qu'on a vu dans ce film-là, c'est effectivement une pulsion qui tombe dans la vide et qui du coup s'exprime de façon un peu brutale, un peu violente. Mais après cette période, donc ce qui n'est pas montré dans le film, c'est ce que Ron Hubbard va réussir à mettre en place à partir de la fin des années 60, où là, lui, il va se retirer complètement, il va disparaître de la scène, et il sera remplacé dans un premier temps par des techniques, des procédures techniques, et par des objets de consommation. C'est-à-dire que le désir des adeptes sera en permanence aiguillonné vers une nouvelle étape à parcourir pour accéder au point d'initiation suivant. Et à chaque fois, ça se fait par le biais d'objets de consommation mis en vente dans le marché des biens scientologiques. Et là, du coup, jusqu'à maintenant, cette secte tient. Alors, on se demande, mais c'est une des questions que je me pose depuis que je travaille dessus. Est-ce qu'on peut dire que ça fait lien social, cette secte? Je pense que ça ne fait pas lien social. Ce serait plutôt comme une sorte de communauté de toxicomanes qui sont tous réunis autour d'un objet de jouissance commun. Mais entre eux, il n'y a pas de lien. Ils consomment tous uniquement le même objet de jouissance.
Ouais, alors ça pose alors une autre question. Enfin, ou c'est la même, dit en d'autres termes. Je veux dire, des paranoïaques qui inventent des sectes, il y en a tous les jours. Je veux dire, tous les jours. Bon. Et, voilà, la secte s'éteint avec la mort du paranoïaque. Et en général, souvent, il a eu comme disciple lui-même. C'est-à-dire que personne ne peut habiter cette religion avec lui. Bon, par exemple, Schreber n'a pas eu des tonnes de disciples dans cette espèce de zoroastrisme là qu'il avait inventé, bon, et qu'il avait réinventé peut-être. Or voilà, la scientologie tient, donc il faut bien que elle fasse place quand même au sujet que nous sommes. Ça, c'est qu'il puisse s'y loger et qu'il puisse dire ton coup, c'est pas le dernier des cons. Voilà, qu'est-ce que c'est qui fait que ces gens parce que là, dans l'entourage du maître, quand même, il y a plein de gens qui sont sceptiques. Même sa femme, on peut se demander si elle n'a pas trouvé un moyen de le laisser à sa jouissance à condition qu'elle en sache rien et que personne de ceux qu'il connaît n'en sache quelque chose. C'est un petit truc un peu étrange, là. Ensuite, son fils dit, mais tu te rends pas compte qu'il invente au fur et à mesure où il parle. Bon, le fils. Il y a le fameux journaliste à qui on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il a fait. Enfin, il lui a visiblement fait peur. À la fin, l'éditeur qui dit, écoute, non, mais c'est un grand bonhomme, mais enfin, quand il écrit, c'est nul. Il y a quand même pas mal de gens assez sceptiques tout autour. Qui, pour des raisons diverses, un, c'est la famille, on n'en sort pas. L'autre, c'est l'éditeur. Bon, il fait du fric dessus, hein, plusieurs des secteurs. J'ai un exemplaire vendu. Acheter les bouquins des plumes à la sortie.
Non, ils ne sont pas exposés, je regardais.
Ah bon?
Mais sur la question justement de la pulsion et de la consommation, excusez-moi, je pose la question du coup. Justement, Freddy Quayle, c'est assez étonnant puisque lui, à propos de consommation, c'est juste ces espèces de mélanges qu'il fait de liquide comme ça, qui est carrément une mort à petit feu en fait, puisqu'il y a même... Il y en a même un qui meurt au début. Et du coup, là, ça serait... Du coup, c'est une pulsion qui dévie, en fait. Puisqu'on n'est pas dans quelque chose, justement, qui consomme et qui consomme du discours et ou qui consomme plus sur un propos d'un objet, mais on est plutôt sur autre chose en fait. Alors là, je sais pas, mais ça serait peut-être la question de la psychose ou de la schizophrénie face à ce discours-là, quoi. Je pose la question.
Je pense qu'il reste juste addicté au même objet d'addiction du début à la fin. Il ne change aucun moment. Souvent, ceux qui s'engagent, beaucoup de gens rentrent en scientologie, ils sont rentrés depuis 50 ans, mais ils vont pas très loin, généralement. Hein. Il y a beaucoup de turnover, ils font une étape ou deux, et puis ils repartent. Donc lui, en tout cas, il n'est jamais passé de cet objet d'addiction à un autre. Mais je vous dis, là on voit la scientologie avant qu'elle devienne réellement la scientologie. Alors tout à l'heure, vous parliez de... Généralement, le paranoïaque quasiment sans seul adepte. Lui, Ron Hubbard a fait des millions de gens depuis le
temps. Raël. Raëlien, voilà une entrée.
Je ne suis pas sûr que le mouvement raélien survive à la mort de son fondateur. Alors que c'est vrai que l'Église de Scientologie, il est mort en 86, et la secte s'est portée, mais très bien après sa mort. Il n'y avait pas de souci. Mais je pense que lui, il a réussi à mettre en place un système duquel lui, en tant qu'énonciateur, avait disparu.
Oui, c'est enlevé, oui.
Est-ce que justement il n'a pas réussi à mettre en place une entreprise totalement fondée autour d'un élément marketing, tous ses livres, tous les éléments pour faire la génétique et ainsi de suite, qui n'ont pas fait des adeptes, ceux qui dirigent la secte actuellement, des adeptes qui croient en la génétique, mais plutôt des adeptes qui veulent faire de l'argent autour de la génétique. Et le fait d'avoir créé tout ce groupe autour de lui, qui va faire perdurer la secte. Derrière, on sait bien que les gens qui vont se faire prendre à ça vont eux être des adeptes sur 1, 2, 5 à 10 étapes, je crois, enfin plein d'étapes, et vont abandonner au bout d'un certain temps. Mais ceux qui dirigent, par contre, savent très bien que la dialectique, ça vaut rien. Mais par contre, ils savent très bien que ça rapporte de l'argent, et ça s'inscrit complètement dans cet effet marketing, qui, enfin la société de consommation des années 60. 50, 60 et ainsi de suite, qui a fait que, à partir du moment où on fait de l'argent, on continue la chose.
Très honnêtement, je ne pense pas du tout. C'est un petit peu l'idée générale, c'est-à-dire que la scientologie, à la fin des années 60, est devenue la scientologie telle qu'on la connaît, c'est-à-dire ce grand mouvement qui s'emballe, mais c'est un mouvement qui s'emballe sans qu'aucune direction ne soit déterminée par quelqu'un. Il n'y a personne qui la dirige, c'est totalement fou. Je pense vraiment qu'elle est dirigée par des procédures techniques que Ron Hubbard a mis en place, mais qui sont appliquées à la lettre. Alors, je me souviens d'un séminaire qu'on avait eu avec l'équipe où Sidia Scofaré, c'est très apocryphe hein, ce que je vais dire, peut-être qu'il n'assumerait pas, il m'avait dit, voilà, globalement, on peut dire que les religions sont fondées par des psychotiques, ensuite ritualisées et organisées par des obsessionnels, et ça s'adresse à des hystériques. Ça me semblait très bien. C'était en guise de bon mot. Alors, ça m'avait semblé très bien, parce qu'on parle souvent en ce moment du nouveau dirigeant de la scientologie qui s'appelle David Miscavige. Sa nièce vient de sortir un bouquin où elle raconte sa vie dans la scientologie. Et il me semblait effectivement que ce Miscavige avait organisé, à partir de ce moment de grande folie de la fondation de la secte par Hubbard, avait organisé un mouvement qui était devenu ritualisé et qui tenait. Mais je pense, au bout du compte, bon, j'ai un peu réfléchi dernièrement, notamment en lisant ce livre de sa nièce, je pense que Miscavige est plutôt en position de pervers dans cette secte, non pas parce qu'il manipule tout le monde, mais parce qu'il fout sa vie à se faire l'instrument de la jouissance de ce grand autre qu'est la scientologie. Donc il passe son temps, il ne se fait pas d'argent. Enfin, après, ils ont de grands appartements, etc., les grands dirigeants de la scientologie, mais ils sont soumis au même système de pression que les adeptes de base. Hein. C'est-à-dire que de bas en haut, ils sont tous soumis à une pression qui est complètement folle. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a des purges régulièrement dans la secte où les hauts dirigeants sont purgés, ils tombent au plus bas de l'échelle, ils remontent, etc. Et c'est des procès quasiment staliniens qui sont mis en place avec des procédures précises, etc. Donc lui, en tout cas, Miscavige, il n'est pas là pour se faire de l'argent. Il est là, par contre, pour qu'à aucun moment, ce grand autre-là du savoir scientologue, du savoir fondé par Ron Hubbard, ne devienne manquant et ne dévoile ses carences. Et donc, il est évident pour lui, qui est depuis une trentaine d'années, que la scientologie ne porte pas ses fruits. Au terme, quand on est au T8 comme Tom Cruise, par exemple, on est devenu super puissant, on domine la matière, on peut transformer la salle comme ça, juste avec la puissance de l'esprit, etc. Donc ça, c'est le T8. Or, il ne peut que constater, puisqu'il est lui-même au T8, qu'il ne peut pas faire tout ce que la doctrine lui promet de pouvoir faire. Et donc, s'il ne peut pas le faire, c'est pas que la doctrine est fausse, c'est qu'elle a mal été appliquée. Donc il passe son temps à inventer des procédures d'évaluation pour que la doctrine soit appliquée à la lettre. Mais lui, il est l'instrument de la jouissance de cette grande machine qui broie des adeptes en permanence. Et je pense que la hiérarchie de la scientologie, ils sont tous sur des sièges éjectables, personne ne vise à ne faire que de l'argent. L'argent est juste l'indice, l'indicateur de ce que la doctrine progresse et se propage. Parce qu'en fait, bon, ils sont supposés, pour le dire très vite, ça vise à l'immortalité. C'est-à-dire qu'au terme de l'initiation, le scientologue est supposé devenir immortel. C'est le but absolu de cette secte. Sauf que pour que eux deviennent immortels, il faut que l'humanité entière ait été purgée de ces engrammes, de ce qui empêche l'humanité de devenir immortel. C'est-à-dire qu'on ne devient pas immortel seul, puisque la présence de quelqu'un qui a encore des engrammes va me contaminer, je cesserai d'être immortel. Donc le seul moyen d'être immortel, c'est que tout le monde devienne scientologue et que tout le monde devienne immortel. Et donc plus la scientologie fait de l'argent, et plus c'est l'indice que ça se propage et que l'immortalité est proche.
Dans la fameuse vidéo qui avait été répandue par les Anonymous, Tom Cruise avait l'air d'y croire à ses super pouvoirs.
Oui.
Mais je ne crois pas que aucune secte ne soit une organisation de manipulation, avec un manipulateur qui serait de mauvaise foi, et puis que dessous il y aurait avec des complices, une armée de complices, et dessous des manipulés. Bon, ça tiendrait 15 jours, quoi. Et de toute façon, ça laisserait entière la question de fond, qui est comment se fait-il que des gens ne demandent qu'à abandonner la gestion de leur vie à un autre. C'est vraiment le problème, la question de fond. Et je crois que la scientologie, ce qu'il faudrait examiner, c'est en quoi elle est une réponse pour notre temps. Moi, je vous rappelle avoir travaillé sur un autre mouvement, je pense qu'il faut dire ça, qui était les témoins de Jéhovah. Vous voyez, les témoins de Jéhovah, au début, leur naissance, ils sont nés par un fondateur, mais qui est complètement oublié des témoins de Jéhovah d'aujourd'hui. Beaucoup ne savent même pas son nom. Or, en effet, dans l'histoire, ce type a été accusé de malversation, d'un certain nombre de mauvais trucs. Ça faisait mauvais effet, ils ont changé la théologie, ils se sont passés du fondateur, presque. Et non seulement ça, ils sont allés jusqu'à prévoir pendant un certain nombre d'années la date de la fin du monde. Bon, je crois que la dernière fois, c'était... Je sais plus, c'est 76 ou 78.
78,
je crois. 78. Oui, je crois que c'était 78. Et Moïse devait venir avec Élie et Élisée chercher les 120 000 justes. Bon, et puis ici, ils sont pas débarqués. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que moi, c'était l'époque où je faisais mes propres recherches. Donc, il y a peut-être des tas de témoins de Jéhovah que j'avais comme amis à qui j'ai dit, mais laissez-moi les clés des voitures. J'en aurais pas besoin pour revenir. Il y en a pas un qui me les a données. Donc, quand même. Vous dites, non, mais c'est pas simplement de l'humour, c'est quel est le rapport qu'ils ont à ça. Et une fois que la date est passée, c'est un peu comme ce qui s'est passé là avec la fin du monde, ces jours-ci, là, après ces jours-ci, le mois de décembre, dans ce village de l'Hérault, je sais pas où, les Pyrénées, je sais plus, j'ai oublié. Oui. Mais une fois que c'est passé, faut pas croire que la croyance tombe. Elle est simplement réajustée. Les témoins de Jéhovah ont dit, on a simplement mal interprété le texte. Bienheureux message qui fait que maintenant nous avons une vision beaucoup plus claire des choses, tellement claire qu'il fixe plus de dates. Mais c'est pas, on peut se moquer d'eux, mais ce sont des processus de régulation qui fait que ce qui est quand même préservé, c'est le type de représentation du monde, d'organisation du monde, de sens du monde qui leur permet d'habiter le monde aujourd'hui.
J'ai discuté le lendemain de la fin du monde, en décembre, j'étais en Guyane, et en Guyane, il y a beaucoup d'évangélistes, et donc j'ai discuté...
Qui fixaient des dates.
Qui fixaient des dates, oui. Et donc le lendemain de la fin du monde, les évangélistes millénaristes m'ont expliqué dans la rue, j'ai dit, et alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Et on dit, écoutez, ils étaient encore plus croyants, alors là, ils étaient vraiment tout fous, ils avaient des t-shirts qui annonçaient le nom de leur secte et tout. Et oui, on a bien prié, vous voyez, ça a porté ses fruits, ils étaient encore plus croyants. C'est-à-dire qu'ils ont tellement prié que grâce à eux, la fin du monde a été ajournée, donc tout le monde est encore plus croyant.
Ça
n'ébranle pas.
Vraiment, la question de la croyance, c'est un gros problème. Ouais. Non, mais après tout, le christianisme, lui aussi, il croit qu'on va tous devenir éternels, mais après la mort. C'est plus rationnel.
C'est propagé à l'époque où c'est propagé, c'est précisément parce qu'il semblait apporter une réponse aux questions d'alors.
À le christianisme. Oui, on dit que c'est une secte qui a réussi, mais ils se battaient à l'époque, je crois que c'était le culte de Mitra, était un culte du soleil, bon, voilà, c'est le christianisme qui a pris le dessus. Ben, sinon, là, on aurait le soleil sur le mur. Bon, c'est...
Mais est-ce que ça ne remet pas en question aussi plutôt un processus d'identification, une sorte de liberté simple où je peux penser et faire ce que je veux comme je veux?
La scientologie, par exemple,
ça serait l'autorisation à ce sentiment de puissance.
Moi, j'ai plutôt l'impression du contraire.
Je crois qu'ils sont soulagés de la liberté, parce que vraiment, c'est à l'ère où les grands récits sont épuisés, où il n'y a plus de grandes idéologies qui fédèrent un petit peu, qui donnent une direction, qui ordonnent le monde, à cette ère-là, peut-être qu'une secte, parce que Ron Hubbard a pensé à tout, c'est-à-dire que tout est procéduralisé, tout le quotidien des adeptes, il a même mis en place des procédures pour nettoyer les carreaux des vitres. Pour nettoyer les carreaux, il y a une technique scientologue, et donc toute la vie des adeptes est balisée du lever le matin jusqu'au coucher le soir, et tout relève d'une procédure. Et du coup, ils n'ont plus rien à penser, ils n'ont plus qu'à se glisser dans l'univers pensé par Ron Hubbard, et à chaque pas, ils savent ce qu'il faut faire parce que c'est écrit quelque part. Je pense que ça évite, justement, ça soulage de ce trop-plein de liberté postmoderne.
Voilà, mais lequel d'entre vous accepte de laisser chaque minute de sa vie gérée par un autre? C'est ça qui est le mystère. Alors on ne laisse pas chaque minute de sa vie, mais on laisse quand même des morceaux.
Ouais, j'ai envie de faire le parallèle avec la société de consommation, parce que on en est quand même, enfin, avec ce que vous venez de dire, on en est quand même proche. Parce que c'est vrai qu'elle ne gère pas chaque minute de notre vie, mais qu'on retrouve quand même plein de choses qui sont similaires à ce qu'on a vu dans le film. Voilà.
À la fois, on nous dit en permanence par le biais de publicité, etc. On nous dit en permanence ce qu'il faut consommer à quel moment, parce que c'est nous, ça nous identifie, etc. On est supposé, c'est quand même de la publicité de masse. Et à chaque fois, ça avance, ça nous dit ce qu'il faut qu'on consomme, tout en mettant en avant notre liberté de consommer. La scientologie fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'en permanence, il rappelle aux adeptes qui sont libres de faire ce qui est ordonné par le texte, en fait. Et ils le font en étant persuadés qu'ils sont libres. Et plus ils le font, et plus ils seront libres.
C'est une analogie. Il faudrait arriver à la... Parce que la société de consommation, quand même, il faut qu'on mange. Vous voyez, ça repose là-dessus. Et comment arriver à capturer la nécessité de manger pour la mettre au service du marché et nous faire manger autre chose que bon, je ne sais rien, que ce qu'on a mis, quoi. Donc ça, c'était la spécialité de Bernays, de propaganda, du neveu de Freud. Mais la société de consommation, il faut la situer quand même dans le fait, dans une logique de lien social, d'organisation, qui est le discours capitaliste, et qui est, comment on pourrait dire ça, c'est une société dans laquelle c'est une société enfin, qui secrète une espèce d'idéologie qui nous dit que demain, on expliquera tout, que demain on comprendra tout, que demain on fabriquera tout et que demain on jouira de tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se penser comme des êtres désirants, manquants ou je ne sais pas quoi, puisqu'on peut être absolument satisfait demain, quand même demain. C'est un quadruple mensonge, parce que dire demain on expliquera tout, la science elle n'expliquera jamais tout, puisqu'elle crée au contraire les problèmes réels à... C'est ça la science, c'est toujours creuser ce qu'on ne sait pas, et orienté vers ce qu'on ne sait pas, pas vers des connaissances du style les jeux de télé, où vous avez des gens qui savent tout sur tout, mais ça sert à rien. C'est une connerie pour la télé. La science, elle est orientée vers ce qu'on ne sait pas. Demain, on comprendra tout, je ne suis pas sûr qu'on comprenne tous absolument ce qu'on se dit ce soir. Donc, dès qu'on parle, c'est du malentendu. Demain, on fabriquera tout, je sais pas, la rustine a bouché, j'adore ça, la rustine a bouché le trou de la couche d'ozone, le frigo à refaire la calotte glaciaire, la pilule à guérir la faim dans le monde. Non, c'est jamais de la vie, on fera jamais tout, et quant à jouir de tout, bonjour. Bon, mais c'est vrai que le discours capitaliste, c'est un discours qui a réussi à capturer nos désirs, à les ravaler sur une espèce de besoin, qui fait qu'on va aller toujours vers l'objet du marché qui est supposé nous compléter. Ce qui fait que ça donne des choses assez bizarres. D'abord, si on accepte d'être complété par les objets du marché, ça veut dire qu'on se traite soi-même comme un objet. Donc, il ne faut pas s'étonner après qu'on soit soi-même sur le marché, qu'il y ait du traficotage d'organes et des choses comme ça, jusqu'à de l'esclavage, si vous suivez l'actualité d'un certain nombre d'endroits. On est pris sur le marché. Bon, et puis,
Et je dirais, c'est pas que les objets du marché non plus, c'est aussi les autres. Parce que c'est vrai que, enfin, on vit constamment à l'extérieur. C'est tout le temps, enfin, quand on voit, là, ça peut paraître très drôle, on rigole, ça nous paraît aberrant quand on regarde le film. Mais au final, quand on regarde, quand on se regarde, enfin, je dirais pas tout le monde, mais les gens sont beaucoup tout le temps dehors à aller chercher, et pas que des objets, c'est les autres. On nous apprend pas à être seul, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que les gens, quand ils se retrouvent seuls, sans personne comme lui dans le film, qu'est-ce qu'ils font? Bah, il y a les sectes qui sont là et qui leur proposent, voilà, quelque chose de merveilleux. Donc, évidemment, ils y vont.
Ouais. Je sais pas. Là, vous posez une grosse question. Enfin, c'est d'autres questions. C'est des questions gigognes.
Ce que j'observe, c'est qu'avec l'individualisme ambiant, les sectes affleurissent de partout et de plus en plus.
Oui, mais ça veut donc dire, parce que quand même, l'humain, si je puis dire, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais le simple fait de parler, ça implique qu'on ait emprunté le langage à quelqu'un d'autre, et ça implique qu'on s'adresse à quelqu'un d'autre. Je veux dire, il y a quelque chose de social dans ce que chacun est. Donc, dans le fait même d'être condamné à la solitude, d'être exclu du travail, d'être précarisé dans le monde contemporain, il y a un vrai problème. À dire vrai, l'humanité a inventé la société, la civilisation, pour traiter la précarité ontologique de l'humain. Il est faible, il est fragile, c'est l'animal le plus couillon de... Dire, écoutez, il nage moins bien que les poissons, il vient moins bien aux arbres que les singes, il court moins vite que les guépards. Enfin, c'est nul comme espèce. Bon. Donc, mais par contre, il a compensé ça par cette dimension langagière, qui est assez fantastique, et qui implique cette dimension de lien social. Donc, la solitude dont vous parlez, la question, c'est pas tellement de s'y habituer.
Non, c'est pas ce que je voulais dire, en fait.
C'est comment faire du lien social.
C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est le fait de pas tout le temps aller chercher à l'extérieur, de pas tout le temps. C'est vrai.
Ah non, de pas aller chercher l'autre comme un complément.
Eh ben oui, mais c'est vrai que
ça, c'est la société consommationnelle, vous a transformé.
C'est vrai que c'est ce qu'on fait beaucoup dans notre société, et que du coup, quand il n'y a plus rien autour de nous, eh ben c'est comme ça qu'on arrive à se retrouver dans les sacs.
Mais même là, c'est très juste ce que vous dites, parce que même les relations entre nous, on voit quand même aujourd'hui beaucoup de gens qui aiment dans les relations entre personnes, qui aiment la passion, mais qui n'aiment pas l'autre. Car quand la passion tombe, on s'en va, on change de partenaire. Pas forcément ce qui se retrouve le monde.
Ben voilà, on me demandait si la scientologie est une religion pour riches. Non, tout le monde a le droit d'aller consommer l'objet scientologue, non? Ça
peut être les cartes
de l'adhérence. J'avais une carte, je vous l'amène.
Mais dans le...
Ça se développe là depuis quelques temps, surtout dans les pays de l'Est, l'Afrique, les pays qui s'ouvrent au marché. Voilà. Parce que la scientologie suit tous les pays où le marché s'installe. Dès que le marché s'installe, que l'anthropologie libérale dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun ne pense qu'à consommer, à défendre ses intérêts personnels, etc., là où l'égoïsme devient un petit peu la loi qui régit le lien social, là, dans ces pays-là, où le marché est bien installé, où le marché est confortablement installé, là s'introduit la scientologie. Elle ne s'introduit pas dans des zones culturellement encore protégées, on va dire, par des amas. La France et l'Allemagne, par exemple, résistent bizarrement. Pourquoi la France et l'Allemagne résistent autant à la scientologie?
Bonsoir. En France, quelle est l'ampleur? Quelle est la place?
C'est anecdotique. En France, il y en a vraiment très peu. Et en Allemagne, il y en a vraiment très peu aussi. C'est deux pays qui résistent et qui font vraiment, qui sont relativement imperméables. Alors, je pense vraiment que ce sont les pays qui sont le plus dérégulés, on va dire, ceux qui prônent le plus l'absence de régulation par une grande instance collective qu'on appelle l'État ou qu'on appelle peu importe comment. Des pays qui sont structurés autrement, ouvrent un bel espace pour que la scientologie s'installe. Et là où, comme en France, où le système juridique français, il y avait une étude d'Hervieux Léger qui disait que la France est restée longtemps imperméable à ce type de secte-là, d'autres arts culturels, parce que, étant la fille aînée de l'Église, elle avait encore des armatures catholiques qui tenaient bien, qui imperméabilisaient le sol culturel français, etc. Et elle constate que dans les années 70, ce cadre culturel, symbolique, hérité du catholicisme, s'est effondré. Or, malgré tout, ces sectes-là ne s'implantent pas en France. Donc, il y a autre chose qui fait que la France n'est pas sensible, réceptive à ce type de secte. Par contre,
Dans les pays de l'Est, par exemple, à partir du moment où le mur est tombé, là, ça a été ces sectes-là, la Scientologie, le mouvement rennais, se sont engouffrés là-bas. Et les pays les plus démunis aussi d'Afrique ouvrent un espace où la Scientologie peut s'installer. Partout où vient s'exprimer la demande de consommer un objet, la Scientologie, alors qu'en France et en Allemagne, a priori, ça fonctionne autrement pour l'instant.
Bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez du système scientologue. Est-ce que ce système peut être amené à imploser ou exploser comme n'importe quel...
Je pense qu'il va à un moment ou à un autre, parce qu'il dure, on pourrait croire qu'il pourrait durer comme ça éternellement. Il peut durer, parce que c'est un système qui tourne bien, qui tourne en rond, et il s'emballe même par moment. Là, il a pris un certain rythme depuis une trentaine d'années. Je pense qu'en fait, il va certainement disparaître à un moment, ce mouvement-là, mais pas tant parce qu'il va imploser ou parce qu'il va se consumer ou des choses comme ça, plutôt parce qu'il va se banaliser, en fait. Beaucoup de pays, là où cette anthropologie défendue par la scientologie était encore insupportable il y a 30 ans, cette espèce de férocité, comme ça, de face-à-face, de lutte pour la survie, qui est l'idéologie locale dans la scientologie, est devenue un petit peu commune dans les sociétés contemporaines, avancées. Et je pense qu'à un certain moment, Les méthodes de management, par exemple, qui sont vendues par la secte et qui sont très prisées par des grandes entreprises, deviennent banales. C'est-à-dire que beaucoup d'autres organismes de management proposent les mêmes méthodologies de management. Donc la scientologie va disparaître parce qu'elle n'aura plus rien d'exceptionnel. Elle va se banaliser d'ici 15 ans, peut-être.
Oui, il y a peut-être deux questions. D'une part, je suis en train de me dire que quand on a entendu parler pour la première fois de la diabétique en France, c'était au moment où on débarquait ici, en même temps que les psychothérapies, disons, de la côte ouest des États-Unis. C'est-à-dire, en ce moment, on a déferlé, je parle de la bioénergie, etc. Dans le paquet, il y avait comme une espèce de truc un peu bizarre, la diamétique. Donc, il faudrait aussi se poser la question de... Ça répondait quand même à une époque qui n'est pas tout à fait la nôtre. Donc elle s'est modifiée entre le moment où Ron Hubbard l'a créée et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc sa capacité, c'est sa capacité à répondre aux questions que ses adeptes se posent aujourd'hui, en quelque sorte. L'autre remarque, c'est que peut-être ces grands mouvements sont appelés à rogner leur marge. Enfin, mais des petits maîtres, il y en a partout. Par contre, ils fleurissent, un peu comme si chacun attendait de trouver son gourou. Et quelquefois, vous savez, quand vous regardez des nouveaux métiers comme les coachs, il y a certains coachs, vous savez pas très bien, il y a même des coachs spirituels. Enfin, je veux dire, des fois, vous savez plus si vous avez affaire à quelqu'un qui prend une technique d'entraînement sportif ou d'entraînement... je sais pas quoi, moi, cognitif ou psychologique, ou bien si vous avez affaire à quelque chose qui est quasiment une direction de conscience un peu musclée. Il y a tous les informels. Donc, sans doute, des maîtres, il y en a.
C'est une des dernières grandes sectes qui existent. Hein. Mais effectivement, maintenant, c'est des petits mouvements, c'est des petits coachs personnels, c'est des gourous locaux comme ça. Et ces grands mouvements qui vont durer comme ça un demi-siècle ou un siècle, peut-être qu'on va toucher le siècle avec la scientologie, ça, bon, c'est pas dit que ça continue à exister. Ouais.
L'église catholique, ça fait un moment que ça dure.
Ce sont des petites églises aussi, hein, c'est un mouvement de petits regroupements indépendants, etc. Parce que c'est une question de charisme, il faut que chacun ait eu un contact personnel avec l'Esprit Saint.
Mais là, on touche à d'autres problèmes. Parce que, aux États-Unis, comment on pourrait dire, la conception idéologique dominante, c'est celle il y a une sorte de religion laïque, enfin, je crois qu'on les appelle ça, de religion, on s'en fout de ce que vous croyez, mais il faut que vous croyez. Bon. Et après, vous croyez ce que vous voulez. Donc, vous avez encore un président qui jure sur la Bible, la vraie révolution de Obama, c'est s'il avait dû jurer sur le Coran. Moi, je pensais qu'il était musulman au début. Je dis, ça va être vachement génial. Au moins que le pauvre. Non, alors que chez nous, on a une tradition de... Parce que quand vous demandez quels sont les points d'appui, on a une tradition de laïcité. Peut-être parce que c'est ici, de ce côté-ci, que s'est inventé, d'un certain point de vue, le libéralisme. C'est-à-dire cette idée que la question du sens de votre vie, c'est une affaire privée. Donc vous renvoyez ça au privé. C'est-à-dire, on s'en fout de ce à quoi vous croyez chez nous, mais c'est votre affaire privée. Vous pouvez en faire... vous pouvez les croire collectivement, mais vous n'emmerdez pas le monde. Par contre, on va gérer les rapports entre nous strictement de façon marchande. Alors ça a été au départ, le libéralisme est un mouvement de gauche. C'est l'idée, on va mettre fin aux guerres de religion et on va scientifiquement traiter l'organisation sociale. Bon, aujourd'hui, le problème, c'est que le libéralisme a changé de camp.
C'est ce qu'on peut dire. C'est le libéralisme et le néolibéralisme. Justement, Foucault en parlait assez bien. Au bout du compte, le libéralisme, c'était l'idée de construire un espace de libre-échange, mais qui ne contredisait pas la nécessité d'un garant qu'on appelle l'État, puisqu'au contraire, disaient les libéraux, c'était qu'il fallait cet espace-là pour enrichir et renforcer l'État. Or, le néolibéralisme, celui de Milton Friedman et de l'école de Chicago, etc., celui-là vise avant tout à dissoudre l'État. Enfin, il faut qu'une instance régulatrice.
Voilà, il faut donc plus de maîtres.
Mais
la question, c'est est-ce que chacun d'entre nous peut se passer d'un autre. Enfin, je veux dire, chacun d'entre nous cherche un autre qui garantirait la réponse qu'il se donne à sa vie. Et faute d'être capable de prendre cette réponse sur soi, eh bien, il y a une sorte de paresse. Exactement comme le petit enfant demande quand même à ses parents, dis-moi qui je suis. Bon, c'est ton nom, ton prénom, ta gueule, tout ça, c'est l'autre qui te le donne dans la glace. Et il y a quelque chose de ça qui nous marque et qui fait qu'on a une certaine pente à s'abandonner à l'autre. Donc, toute la question, c'est comment prendre sur soi, et en même temps, sans tomber dans un chacun sa vérité. Donc ça veut dire, vous voyez, la difficulté, c'est celle-là. Où on renonce à sa singularité, on tombe dans une massification. C'est pour ça que Thierry hésite à dire lien social, parce que l'espèce de masse qu'on peut faire, où on renonce à ce qu'on est, pour être bien avec les autres, c'est quand même problématique. Mais l'alternative, ça serait que chacun ne veuille pas céder sur sa réponse propre, et donc c'est à chacun sa vérité, à chacun sa liberté, c'est le bordel. C'est vraiment, on va se casser la figure. Donc il faut arriver à trouver une solution. Là, il faut un pacte social. Là, vraiment, la grosse question politique, c'est celle du pacte social, du débat entre nous, et il faudrait arriver à traiter. C'est des questions comme ça qui sont posées derrière ce mode de phénomène qui, sinon, règle la question à la place. Au lieu d'avoir une réponse politique, on aurait une réponse religieuse. D'où, d'ailleurs, le sursaut des états religieux. Je vais pas revenir là-dessus, mais par exemple, sur le mariage pour tous, le mariage pour tous, c'est un drôle de truc, quand même. Parce que moi, j'appartiens à une génération, pardon pour ma femme, mais où on pensait qu'on allait plutôt se débarrasser du mariage. Et voir aujourd'hui revendiquer ça, on se dit, tiens, c'est bizarre, quoi. De la part des gens qui ont toujours plutôt incarné une certaine marginalité, c'est une certaine capacité à défendre une position singulière. Bon, donc c'est déjà, il y a ce côté qui est un petit peu énigmatique. Mais dans les manifestations de rue de la part des opposants, c'était quand même assez fascinant d'entendre dire « mais le mariage c'est sacré ». C'est-à-dire, on a vu des arguments religieux, les mêmes qui auraient manifesté contre la charia. On a une charia chrétienne, spontanée. Ou bien ils disaient « mais enfin, quand même, la nature, c'est hétérosexuel ». Moi, j'ai jamais vu d'animaux se marier, hein. Non, puis les animaux, alors, ils sont polygames, ils sont hétérogames, il y a des femelles qui bouffent les mâles, il y a un peu tout. Enfin, on dit n'importe quoi, quoi. Et puis, vous n'avez même pas dans les débats quelqu'un pour dire, attendez, vous dites n'importe quoi. Non, c'est. Donc, pour dire qu'on est bien pris dans cette. On est toujours prêt à se laisser. À respecter cette espèce de discours de l'autre. Quasi religieux, et on est contaminé par ça. Bon, vous voyez, moi, je trouve, on envoie les traces partout. Mais bon, c'est un peu. On est là jusqu'à quelle heure, jusqu'à demain?
C'est comme vous voulez.
Okay. Vous êtes fatigué? Une dernière question, s'il y a quelqu'un qui ne pourra pas dormir parce qu'il ne l'a pas posé.
Oui, je me demande si, finalement, l'analyse globale des sectes, en prise avec le discours capitaliste, n'est pas en partie masqué, dissimulé, en ce qui concerne les racines, par ce qui a été quand même assez négligé dans l'analyse des religions, que ce soit du point de vue des grandes périodes polythéistes et le passage au grand monothéisme, et à l'intérieur desquelles, précisément, les grands monothéismes n'ont pas assumé la part mystique, à partir de laquelle, d'une certaine façon, les religions pouvaient échapper au légalisme, assez liberticide, finalement. que ce soit sur la charia musulmane, sur l'église chrétienne, bon, ou les modalités du judaïsme religieux, sous sa forme politique à l'Isis, à l'Israël, ou sous sa forme intégriste, ultra-orthodoxe, en dehors d'Israël, il semble quand même que, comme le genre l'indique, qu'il y a des parts sombres, du point de vue du sujet, certes, en rapport avec l'autre, mais qu'il y a une face obscure de la raison religieuse. Et souvent, les sectes prospèrent sur, justement, le refoulement de la question mystique, à partir de laquelle on est obligé aujourd'hui, par exemple, quand on est un bon laïque, de parler de spiritualité laïque. C'est-à-dire qu'il y a un retour du refoulé, parfois un retour du folklore, parfois un retour du déni. Et ça, il me semble que, à part des mecs comme Le Gendre, ou Henri Corbin, ou Massignon, il me semble que l'histoire des monothéismes n'a pas été assez, du point de vue généalogique, travaillée. En ce qui concerne le regard qu'on peut avoir sur, les, sur ce qu'il appelle la panne laïque. Enfin, il y a vraiment une révolution laïque qui est en panne, du point de vue de l'analyse des structures même généalogiques, à partir desquelles esprit et matière peuvent aujourd'hui poser des problèmes, aussi bien au niveau du collectif qu'au niveau de l'individu. Quoi. Voilà.
Yeah. Non, je réponds pas. Juste une remarque latérale, c'est que quand même, ce qu'on appelle les grandes religions aujourd'hui, les grandes religions d'ailleurs se regardent de près, enfin on ne peut pas faire ce commentaire là, mais mettons le christianisme, l'islam, le judaïsme, c'est quand même des religions, comment on pourrait dire, qui sont construites sur un point précis sur lequel il n'y a pas de réponse, y compris religieuse. Par exemple, c'est le christianisme, c'est peut-être là où c'est le plus visible, c'est le tombeau vide du Christ. Si vous ne croyez pas à la résurrection du Christ, il n'y a pas de christianisme. Le tombeau est vide. Toutes les hérésies chrétiennes ont consisté à remplir le tombeau. Soit le corps du Christ a été... Il n'avait pas de Christ, il était glorieux. Donc il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas l'enterré, il n'a pas été crucifié. Soit on a planqué le corps, on l'a enterré. Soit il n'est jamais mort, il est encore là. Bon, mais non, le christianisme, c'est la résurrection. C'est un mystère. Et ça requiert l'acte de foi du croyant. C'est-à-dire que l'acte de foi... C'est le contraire de la suggestion. C'est de décider que je crois, c'est-à-dire l'objet de ma croyance peut ne pas exister. Et si on a inventé l'Inquisition, par exemple, dans les siècles, c'était pour forcer à croire l'Inquisition. C'est bien parce qu'on sait qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à croire qu'on a inventé l'Inquisition. Donc, ça faisait une place au sujet. Je crois que donc sans doute dans ce contexte-là, le monothéisme a permis de penser quelque chose, c'est-à-dire un certain rapport à un autre. Enfin, c'est très chrétien de le voir sous la forme de l'autre paternel, etc. Il faudrait faire la même démonstration dans l'islam ou dans le rapport du judaïsme à l'écriture. C'est du côté peut-être de l'écriture qu'il y a ce reste à déchiffrer, perpétuellement à déchiffrer. Il n'y a pas de dernier mot. Il y aura toujours un commentaire, ajouter un commentaire, par exemple dans le judaïsme. Mais dans la secte d'aujourd'hui et dans les intégrismes de ces grandes religions, il n'y a plus de trou. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut arriver à produire un savoir qui ne fasse pas part à la foi. C'est des religions de la certitude, de la paranoïa, entre guillemets, hein, parce que c'est une paranoïa collectivement partagée, ça se voit moins. Donc il y a vraiment une mutation anthropologique là qu'il faut interroger. C'est un des grands problèmes de notre temps, vraisemblablement. Enfin, c'est ce que je dis là, c'est vrai tendanciellement. Ça n'est pas vrai des croyants qu'on a sans doute autour de nous, mais c'est sûrement vrai d'un certain nombre d'intégristes qui montrent cette forme paranoïaque qui est en train de naître. Ou peut-être même plus sommairement, je pensais à cette théorie du complot qui est partout. Il y a des complots partout, maintenant. C'est-à-dire, que ça soit le 11 septembre, on n'a jamais existé, que ça soit le 21 septembre à Toulouse, à ZDF, c'est assez fascinant de regarder se construire un délire collectif pour expliquer ça. C'est... Mais d'un coup, les responsables ne paieront jamais. Bon.
Ça s'appuie sur des preuves, des signes scientifiques à regarder, on analyse avec des logiciels.
Ça s'appuie surtout sur le fait qu'on ne peut pas prouver que ces délires sont faux. Parce que on peut toujours démontrer, je veux dire, dans la science, vous démontrez un objet vous pouvez démontrer que quelque chose n'est pas ça, mais vous ne pouvez pas démontrer que c'est ça. Si vous regardez, je crois que concernant par exemple le 11 septembre, il y a je ne sais pas combien, 150 ou 200 théories du complot. Ça va de les avions n'ont jamais pété les tours, à c'est donc une mise en scène, à je ne sais pas moi, c'est la CIA qui l'a fait. C'est tous les juifs étaient en Israël en pèlerinage, qui habitaient dans les tours, étaient en pèlerinage, c'est donc Israël qui l'a fait. Vous aviez ça le lendemain. Et il y a comme ça des tas de théories. Si vous les prenez une à une, vous dites, vous discutez pas, vous haussez l'épaule et vous dites, mais les gens qui argumentent, du coup, paraissent beaucoup plus convaincants. Il y a des gens qui font leur beurre sur cette théorie qui vendent de la certitude. Qui vendent de la certitude. Et l'étonnant, je vous dis, moi, le problème, c'est celui de ceux qui ne demandent qu'à accepter ça, parce que là, au moins, on a une explication. C'est beaucoup plus facile de se dire que l'autre est foncièrement méchant. Il y a un méchant qui gouverne le monde, il y a un vrai complot, et voilà, ce méchant, il faut qu'on le trouve, et on va... Non. Et le problème, c'est que voilà, ça fonctionne pas comme ça. On est dans une espèce de logique qui est tout à fait problématique. Ce qu'il faut arrêter, c'est une logique. Une logique, ça s'arrête pas comme une personne.
Excusez-moi, mais en science, c'est pareil, il y a plein d'hypothèses qu'on ne démontre pas. Il y a aussi des axiomes qu'on ne démontre pas. Il y a plein de choses dont on part du principe qu'elles sont vraies, de base.
Oui, mais vous n'avez jamais, par exemple, en science, à un état de la science donnée, vous vous posez plein de questions pour essayer d'expliquer un problème. Quand vous avez un problème à résoudre, vous cherchez. Quand vous avez résolu le problème, il est résolu une fois pour toutes. Je veux dire, vous avez rarement deux théories. Et quand on en a deux théories pour un seul fait, on en fait tout un fouet. Ça a été, par exemple, jusqu'à ces dernières années, théorie corpusculaire et théorie ondulatoire pour la lumière. C'est-à-dire, on avait deux théories. Bon. Et je crois quand même que, ma physique est limitée, mais que, au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique, on est en train de réunifier ces théories. Vous n'avez pas, alors que, dans ce champ-là, là, d'espèce de délire, vous avez plein de théories qui se juxtaposent. Alors, je vous ferai simplement remarquer que c'est le cas en psychologie aussi. C'est peut-être le cas en sociologie, c'est peut-être le cas dans les sciences humaines. C'est pour ça qu'elles ne cessent de répéter qu'elles sont des sciences. De peur qu'on s'aperçoive que c'est peut-être pas tout à fait ça. Non, c'est dans le champ de la science, c'est quand même en général, il y a un cap. On est orienté vers le réel qu'on ne connaît pas. C'est le réel qui fait qu'on fait des tas d'hypothèses. Et qu'on ne teste pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le pognon pour le faire, mais puisqu'on doit faire des choses rentables, donc on ne va pas faire forcément de la recherche rentable, ben ça touche d'autres problèmes. Je ne sais pas, je ne vous réponds pas, vous savez. Bon, bonne nuit. Hein. Merci.